La sexe exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexe exploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la sexe exploratrice en compagnie de Mel et Max.
Salut!
Comment ça va, mon beau Max?
Ah, ben, ça va, ben, je pense. Toi, ouais? Comment ça va?
Très bien. Beau
ouais?
week-end?
Ouais, ça a été un beau week-end, ça a été très tranquille. J'en ai profité pour me reposer enfin!
Yes!
Moi qui n'arrête jamais de travailler, ça a vraiment fait du bien. J'ai fait la larve.
Bon, écoute, ça fait-tu du bien de faire rien?
Ah ouais, j'étais à ça de me transformer en papillon. C'était incroyable. Toi, comment ça a été en fin de semaine?
Très bien, on est allé au concert de Ian Maxine.
Ouais, je sais, tu m'as montré des vidéos tantôt.
Oui, c'était vraiment bon, vraiment, vraiment. Notre chère détective privée, Jean Gaudreau, était avec nous.
Ouais.
J'étais en compagnie de ma copine Sonia également. Puis non, c'était vraiment, ça a commencé le week-end en beauté.
Elle n'était pas sur une enquête, là, ce soir-là?
Non, pas du tout. Elle était festive. Détective festive! On est sortis après au Pop Saint-Patrick. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Et il semblait y avoir des auditeurs dans la place.
Oui, mais ça va donner une belle soirée. Lui, c'est un violoncelliste.
Hein? Un violoncelliste. Écoute, c'est un artiste depuis qu'il a 6 ans. C'est un Russe, à la base. Okay. Et il chante maintenant dans 30 langues. Joue,
il chante dans 30 langues?
Oui, ouais, c'est un artiste de renommée internationale. Ian Maxine, M-A-K-S-I-N. Allez voir ça sur les réseaux. C'est incroyable. Sa musique est incroyable. C'est envoûtant. C'est bon. Moi, je tombe en transe. Puis les filles ont ri de moi. Elles m'ont filmé là, pendant que j'écoutais. Je ferme mes yeux. Là, puis je dis, là, la musique me fait vibrer. C'est hallucinant. Je suis incapable de rester à ne pas bouger. Là.
En plus, le show était dans une église, d'après ce que j'ai cru comprendre. Le son devait être écœurant.
Ah oui, vraiment. Donc, c'est le genre de show que je vais voir souvent seul, ça.
Ah ouais?
Ouais.
Pourquoi? Tu veux pas que le monde te voit quand t'es en transe?
Ouais, exact.
Ça te gêne? Mais...
Oh non, je veux juste avoir la paix.
Je veux pas que personne me parle.
Les gens pensent que je suis toujours sur une pinotte, puis que je suis tout le temps entourée de gens, puis que j'ai besoin que ça bouge, mais...
Que t'es sa pinotte?
Tellement... Non, mais sur une pinotte dans le sens... bon, sa pinotte! Ben là, il y a des gens qui pensent ça aussi, mais là, ils sont dans le champ raide, là, imagine-moi là-dessus.
Oh non, non! Mais...
ça va être correct. Non, mais les gens pensent que je suis toujours speedée, hyperactive, tout ça. Mais quand je suis un ou l'autre, on dirait... Tu sais, j'ai besoin de recharger mes batteries vraiment, puis d'avoir des moments de tranquillité, puis de justement, je me mets de la musique, puis je me ressource comme ça, finalement. Là,
ouais,
c'est vraiment...
un bon moyen de le faire avec un spectacle de cette ampleur-là.
Ah,
le
oui,
gars, il avait
vraiment.
L'air vraiment, vraiment bon. Mais 30
ah, oui.
langues, moi, ça me fascine.
Oui,
il parle-tu
vraiment.
30 langues
c'est
ou il a appris des textes dans 30 langues puis il est capable de les chanter?
Non, il chante, il parle également, il parle très bien français aussi.
Il parle 30 langues?
Oui.
Ah, j'ai de la misère à parler anglais comme du
ouais.
bon.
Non, c'est un... Écoute, c'est un... Il est vraiment... Puis ce que je trouve dommage, c'est que chaque fois qu'il vient, bien, on dirait que les gens, une fois qu'il est venu, regrettent de ne pas être venu le voir. Fait que là, ils me demandent de les tenir informés de sa prochaine visite. Puis là, finalement, parce que je l'aide un peu avec sa promotion et tout ça. Puis finalement, tu sais, avec les réseaux sociaux, hein, les algorithmes, en tout cas. Bref, ça a été une belle soirée. Puis là, il va revenir bientôt au Québec. Donc, restez à l'affût. Là, suivez-nous sur les réseaux. Suivez-le. Puis vous allez découvrir un artiste incroyable, de renommée internationale.
Bon, ben on le salue. On lui dit konnichiwa. Hein? Il doit comprendre ça.
Aussi. chers auditeurs, moi, j'aimerais ça savoir d'où est-ce que vous nous écoutez. On est en live sur TikTok ce soir. On ne les fait pas tous les jours, les lives. Hein? On veut vous garder un peu quand même...
Celui qui vit.
Oui, c'est ça. Donc, ce soir, on est en live. Quand Paul Simard est avec nous, on essaye d'être en live. Oups, j'ai vendu notre... Mais c'est pas tout de suite. On vous le présente pas. J'ai vendu la mèche, maudit. Mais bref, j'aimerais savoir d'où est-ce que vous nous écoutez.
Où êtes-vous?
On ne lit pas les commentaires sur TikTok, donc c'est important de passer par le live au 418-670-9098. Écrivez-nous ça, d'où est-ce que vous nous écoutez, de votre camion, de votre cuisine, de votre salon, de votre lit...
Il y a
avec
déjà beaucoup de monde qui nous écrivent, Mel. On a Yves, le trockeur acadien, qui est stationné à Sainte-Madeleine ce soir et qui nous écoute. Notre-Dame du Mont-Carmel, quelqu'un d'autre aussi nous écoute de là.
Notre-Dame du Mont-Carmel, ben oui, c'est
tout. Tu es en train de te demander c'est où, ça?
Non, c'est à côté, c'est dans le coin de l'Avocatière, non?
Hey, tu m'en poses une bonne. Je te dirais que ma géographie québécoise là, est pas mal à moins 4.
Ouais, mais
je sais c'est où Val-Bélair. Puis c'est ton âme. Le reste, c'est un grand mystère.
Je trouve ça le fun. Les gens prennent de l'avance pour nous dire d'où est-ce qu'ils nous écoutent maintenant. C'est vraiment c'est cool. Le fun. Shawinigan. Super. Merci d'être à l'écoute. Hein. C'est vraiment grâce à vous qu'on peut pratiquer ce métier qu'on adore. Je vous laisse avec la trame sonore de notre invité.
Le doc.
Le thérapeute compatissant, bienveillant. Bonjour, docteur.
Le docteur Paul Simard, psychologue.
Docteur Paul Simard, psychologue.
Bonsoir.
Chaque semaine est avec nous.
Oui.
Merci beaucoup.
Visite surprise.
Visite surprise! Oui, ça devait être demain. Notre invité ce soir ne pouvait y être, donc merci beaucoup d'avoir accepté de devancer. On a une autre belle invitée demain qui a accepté d'être là. On garde la surprise pour demain?
Je pense que oui.
Ouais, on garde
Soyez des nôtres demain, ça va valoir la peine.
Oui, ça va brasser.
Ça va brasser pas mal. Ben, oui,
absolument. Mais écoute, ce soir, ça va être une émission qui va brasser aussi quand même. On va aborder trois sujets super intéressants. Et on va commencer avec... C'est lui qui me fait un peu réagir parce que j'ai l'impression que je vais m'obstiner avec le doc.
Oh!
Ouais.
Pas fort possible qu'on s'obstine.
Oui.
On est bon là-dessus.
On est bon pour s'obstiner.
Ça arrive
mais
pas souvent.
Toujours dans la bienveillance et le respect.
Exact.
Ben,
ça, c'est fun.
Ben oui, si vous envoyez chier, il va falloir que j'agisse en arbitre. Là.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Donc, Paul ou docteur, hein? Docteur Paul Simard, psychologue. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est dans une relation de contrôle ou de protection.
Aha.
Tout ça découle d'un podcast dont j'ai vu l'extrait le passé, Liberté d'être, avec Mme Myriam oui. Pelletier.
Ah, elle est incroyable, elle fait des super entrevues.
Vraiment, ça vaut la peine de la suivre. D'ailleurs, je pense qu'elle va venir là, dans le... On en a parlé là, pour la sexploratrice, tout ça, donc assurément après les fêtes. Paul, tu parlais de contrôle versus la protection du couple. Bon, tu parlais de...
Sujet tabou un peu, hein, ça, maintenant.
Ben,
mettre des limites, est-ce que c'est du contrôle ou de la protection?
Oui, c'est ça, partager son malaise vis-à-vis telle ou telle situation.
Ouais, ouais.
À partir de quand est-ce que c'est du contrôle et à partir de quand est-ce que c'est de la protection? Par exemple, il y avait une mise en situation où tu expliquais que sortir dans un bar seul, sans son conjoint ou sa conjointe, ça pourrait mettre le couple en péril?
Oui.
T'as dit ça?
Je suis pas d'accord
j'ai
avec
dit ça,
ça,
mon Dieu!
Mais
t'as dit ça sérieusement?
J'ai dit ça, mais je le mettais en contexte.
OK, mettons-le
j'ai été
en contexte.
Particulièrement surpris parce que moi,
je
sais que dans notre société moderne, l'idée de mettre une limite à quelqu'un, c'est considéré comme étant inadéquat,
une forme
du
de
contrôle. Puis là, tu gères la vie de l'autre, puis t'as pas d'affaire à gérer la vie de l'autre. Donc, c'est une société très individualiste.
Mais là, il y a quand même une différence entre mettre des limites à quelqu'un et partager ses limites.
Exact.
OK.
C'est là où je voulais en venir dans la nuance. Puis j'ai été particulièrement marqué par le fait que cet extrait-là que tu cites, hein, j'ai eu plein de demandes de nouveaux clients qui me disent « Ben moi, je savais même pas que j'avais le droit de partager mon mécontentement puis ma peur quand mon partenaire faisait des sorties dans les bars puis tout ça. Je savais même pas que j'avais le droit parce que là, je me ferais accuser d'être pas correct puis d'être contrôlant. Puis... » Et là, il y a peut-être des nuances à aborder. Là,
oui.
La nuance principale sur laquelle moi j'aimerais enligner les gens, c'est celle de est-ce que vous êtes en train de parler de ce qui se passe en vous ou vous êtes en train d'essayer de gérer la vie de l'autre pour éviter de vivre des émotions? C'est juste ça. Il est où le premier candidat, on va dire, de l'histoire? Parce que si on commence par agir sur l'autre avant d'agir sur soi, ça, c'est du contrôle.
Mm-hmm.
Okay.
Je manipule l'autre personne pour ne pas, moi, vivre quelque chose. Ça, je pense que c'est inadéquat. Mais si on existe intérieurement puis qu'on reconnaît qu'en effet, ça me déstabilise puis que je partage à l'autre le fait que ça me dérange ce sujet-là, que moi, ça fait partie d'une relation saine peut-être, de ne pas aller jusqu'à telle limite.
Mais moi, je suis d'accord avec ça. On partage notre malaise, on partage notre limite. Et si l'autre, malgré notre partage, l'autre ne comprend pas ou continue son comportement, mais là, c'est à nous de prendre la décision. Bon, là, j'ai partagé ma limite, l'autre l'a compris, maintenant, il ne change pas.
Ouais.
C'est à moi de décider si je veux rester ou non dans cette situation-là.
Et encore faut-il le partager adéquatement parce que ça reste un sujet délicat là, de dire
c'est
à quelqu'un
difficile.
Je veux pas que tu aies là parce que ça m'inquiète.
Ça serait sous forme de contrôle, je pense, la manière que tu le dis.
Ah,
oui, mais à la base, c'est un peu ça que ça veut dire dans tous les cas.
Ben, non, moi, c'est la traduction que je voudrais faire. Ça serait plutôt quelque chose du genre je réalise que ça m'inquiète.
Quand tu
fais tel comportement.
Ouais.
C'est ça
que je dis. Non, mais la façon dont tu partages le propos. Le propos est le même, mais la façon dont tu l'expliques, dont tu le partages, c'est extrêmement important parce que justement, c'est délicat.
Des fois, on ne le voit pas, la différence entre ces mots-là, quand on est envahi par l'insécurité, par la crainte.
Bien, ça peut être facile de tomber peut-être dans l'accusation plutôt que le partage de son mal-être. Fait qu'il faut parler au jeu plutôt qu'au.
Les gens de la misère.
Tu me rends mal à l'aise.
Les gens de la misère à parler au jeu. Quand ils sont stressés. Parce que le stress, ça l'appauvrit nos ressources à l'intérieur de nous. C'est comme si c'est tous nos réflexes de survie qui s'accaparent de nos ressources. On n'en a plus pour réfléchir beaucoup. Mais pourtant, on parle. On est convaincu qu'on réfléchit et qu'on dit des affaires intelligentes. Là. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui vont dire des choses épouvantables dans une crise d'anxiété. Là. Puis le lendemain, ils vont dire « Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, finalement. »
Puis penses-tu qu'il y a des gens qui ont peur de parler au jeu parce qu'ils vont penser que ça fait d'eux des personnes égoïstes?
Oui. Moi, des fois, il faut que je fasse en consultation des prescriptions d'égoïsme.
Wow, j'aime ça!
C'est écrit sur la prescription. Prescription d'égoïsme, pas égocentrisme. Donc, il y a une différence entre l'égocentrisme
et l'égoïsme. La différence entre les deux, Dr. Simard?
Bien, l'égocentrisme, c'est « je suis le centre du monde ». Ça, c'est un égocentré. Là, ouais. Il utilise les autres à son avantage. Alors que égoïste, c'est seulement la personne qui est capable de dire « je suis la personne responsable de mes besoins essentiels ». Puis quand j'ai fini de prendre soin de mes besoins essentiels, là, comme dormir, manger, bien là, j'ouvre naturellement pour aller aider l'autre, puis là, je suis altruiste.
OK.
Puis là, on alterne entre un sain égoïste, prends soin de mes besoins, puis un altruiste, je vais prendre soin des autres. Mais l'égocentrique ne lui fait pas ça. Il est toujours fermé sur les revendications de moi, là, moi, j'ai des besoins, moi.
Ah oui, OK, ça on en voit. Hein?
Ouais, pas mal.
Docteur Simard, dans la mise en situation où on parle justement de quelqu'un qui veut sortir seul dans les bars avec ses amis.
Oui.
Bon, moi, je trouve pas qu'il y a aucun problème là. En fait, si j'ai confiance en ma partenaire, disons. Toi, Dr. Smart, ouais. Tu dis que peut-être que ça pourrait mettre le couple en péril. Pourquoi?
Il y a certains couples que ça va les mettre en péril parce qu'il y a des gens, je ne parle pas de vous, les auditeurs, là, je parle, en oui. général, il y a des gens qui ne se maîtrisent pas eux-mêmes sur le plan émotionnel. Ils n'ont pas développé leurs propres compétences affectives.
OK.
Puis parfois, ils ont des comportements impulsifs. Le nombre de fois que je vois ça, moi, dans une semaine, en consultation, des gens qui ont fait des gestes qu'ils regrettent, ou qui ont dit des paroles qu'ils n'auraient pas voulu dire, puis qu'après ça, ils disent « moi, mais je ne sais pas comment corriger cette affaire-là », ben c'est dans l'apprentissage de la frustration. Fait que l'idée de s'exposer dans des lieux de plaisir puis de partage, c'est pas mauvais.
Mais non!
Faut pas voir ça comme étant bon, mauvais. Mais est-ce que c'est un facteur de risque qui peut fragiliser certaines personnes impulsives, faciles à détourner d'un engagement qu'ils ont pris précédemment?
Okay.
Ben oui. Fait qu'il faut le voir en termes de facteurs okay, fragilisants.
Ouais. Okay.
Mais c'est-tu moins où, à la seconde où on prend le chemin avec notre char, le risque est le même, dans le sens où, je veux dire, il y a autant de risques qu'on fasse un accident qu'on n'en fasse pas, là.
En fait, moi, je vois ça un peu comme... Ben là, c'est sûr qu'on parle de personnes quand même qui ont une base à problème, finalement. Parce qu'un couple sain, là, qui sort chacun de leur côté, il n'y a absolument aucun problème là-dedans. Je veux dire, si la personne sort et elle se met dans un contexte où il y a peut-être du flirt possible ou quoi que ce soit, mais si la personne est dans une relation saine et que cette personne-là est également saine d'esprit et de comment dire, équilibrée ou en tout cas whatever, elle fera pas de gestes qui pourraient décevoir son partenaire.
C'est parce que le degré de compersion va pouvoir évoluer ou changer là, en cours de relation. Là. Il y a des gens qui vont être très sécures dans un moment de leur vie, puis à d'autres moments, ils vont être très fragiles.
OK.
Puis c'est pas au même moment que les deux partenaires vont peut-être avoir le désir de proximité et de réassurance à égale distance.
Ouais.
Donc moi, j'aime ça soulever l'hypothèse en disant « on pourrait-tu s'occuper de la relation en elle-même. » Donc, c'est pas juste une question de brimer un individu ou de permettre des choses à un individu. C'est est-ce que les gestes que je fais, ça protège ma relation ou ça l'attaque, ma relation? Est-ce que je m'expose à un lieu où je suis, entre guillemets, kidnappable ou je décide de bâtir quelque chose qui construit ma famille, mon couple? Puis c'est tellement dur à démêler sur le plan du comportement qu'il faudrait pas s'arrêter au comportement. C'est le pilote à l'intérieur de soi qu'il faut examiner. Quel pilote prend la décision? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir un pilote très sécure en dedans d'eux, là, capable de discernement.
Exact. Je veux dire, tout le monde voudrait être riche dans la vie, là, mais il n'y a pas personne qui ose aller dans une banque faire un hold-up parce qu'on comprend qu'il y a des conséquences puis que c'est dangereux. Tu sais, je veux dire, c'est pas intelligent de faire ça. Mais c'est la même chose si ton conjoint, ta conjointe veut sortir ou partir en voyage avec ses amis ou whatever.
Ouais.
Ben moi, je pense que si la relation va bien, que la confiance est instaurée entre les deux partenaires, je vois rien de malsain à le vivre.
Exact. Mais juste, je pense que c'est pas crier au loup, c'est pas créer une situation anxiogène pour rien. C'est-à-dire que on va pas diminuer la confiance qu'on a envers l'autre personne si on lui dit des choses comme ça avant qu'elle sorte dans le bar. « Hey, j'ai peur qu'il arrive de quoi à soir. »
C'est peut-être un partage et non pas une fragilisation de la relation. Et l'idée, c'est pas d'inquiéter l'autre, c'est ça... pas de, d'ouvrir des insécurités pour avoir une, du pouvoir sur l'autre personne. L'idée, c'est de savoir, c'est injecter dans les échanges, c'est quoi qui se passe pour de vrai. Là.
OK.
Si à l'intérieur de, d'une personne, il y a du doute et de l'insécurité, c'est vrai qu'elle peut le travailler, son doute et son insécurité. Mais il y a également un volet relationnel. Tu sais, avant, là, les couples qui se formaient, là, ils ne faisaient pas deux « je », ils faisaient un « nous ». Mais aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, un nouveau couple, « OK, vous allez mélanger tous vos comptes bancaires en un seul compte bancaire conjoint, vous allez tout déposer là-dedans. » Puis là, « Hein, quoi? Mais là, si j'en gagne plus ou si l'autre en gagne moins, qu'est-ce que je fais? » Puis là, donc on est beaucoup axé sur un désir de justice qu'on pourrait qualifier de mathématique.
Ouais.
Mais en réalité, le... dans le monde affectif, c'est très, très vaste et très complexe. J'ai une question pour toi, Mélanie.
Vas-y donc.
Est-ce que, mettons, un conjoint là, tu sais, qui se mange la petite peau les doigts comme ça, là, si son autre, son conjoint, il enlève le doigt de la bouche en disant « Hey, mets pas tes doigts dans ta bouche comme ça », est-ce que c'est du contrôle?
Ah oui.
Mais si c'est la personne qui se mange les doigts qui a dit à son partenaire « Enlève-moi mes doigts de ma bouche quand je le fais parce que moi, je c'est plus fort que moi », c'est-tu du contrôle encore?
Non, parce que c'est partagé, puis l'autre accepte.
Bon, ben peut-être qu'il y a des couples qui se sont entendus en disant « Là, j'aimerais ça que des fois, quand j'ai le goût de faire des activités un peu à risque, là, tu me ramènes un peu. » Donc,
y a, ah, mais oui, c'est ça. Il y a des consentements qui s'établissent. Ça. Mais tu sais, dans le cas où il y a, par exemple, un partenaire insécure qui, lorsque son conjoint, sa conjointe sort dans les bars, moi, je pense que c'est ces gens-là qui ont dû te contacter, là, des gens insécures et anxieux, disons, là, qui voient leur conjointe sortir et qui, là, deviennent hyper insécures, bien... Je veux dire, je pense pas que d'empêcher ton conjoint de sortir est intelligent. Puis je veux dire, si ton conjoint, ta conjointe décide de te tromper, là, ben, elle va le faire anyway.
Ouais.
Ouais, moi, mais ça, c'est une réponse rationnelle à un problème affectif. Fait que les gens, ils sont pas tous matures à la même place sur le plan affectif. Hein. Fait que ça prend des solutions un moment donné pour gérer la tempête
affective. Un consensus,
affective.
Finalement. Ouais, parce que là, je veux dire, la personne va s'empêcher d'avoir du plaisir avec ses amis parce que son conjoint est inquiet.
Ça se peut.
C'est sain.
Ouais, puis d'avoir peur que ton partenaire te trompe, ça peut te raisonner ou irraisonner, mais c'est pas un peu de jeter ses insécurités sur lui?
Oui, d'une certaine manière, ça peut aller jusque-là. Il y a des gens qui ont tellement peur de se faire tromper là, qu'ils se dépêchent de tromper leur partenaire un coup d'avance. Au cas où, là, que si tu me trompes, c'est déjà fait. Je vais pouvoir sortir ma carte, mon joker. Moi aussi, je l'ai déjà fait. T'imagines-tu comment c'est terrible?
Ben, c'est pas sain, là.
Non, c'est pas sain.
Puis imagine, quelqu'un qui se fait toujours accuser, mais qui, à tort, de tromper l'autre, là. Ben, à un moment donné, je pense qu'il pourrait quasiment finir par le faire parce qu'il va se dire, au pire, elle m'accuse déjà.
mais si on prend ça de l'autre bord, là, quand on vit trop d'insécurité en dedans de nous et on a besoin de les sortir, c'est quoi la meilleure façon de le faire pour pas submerger l'autre personne avec nos inquiétudes?
Hey, ben, ça peut être étouffant, là.
Ben oui. Il n'y a pas une seule solution magique parce que ça va être question ici de maturité affective.
OK.
La maturité affective, ça ne s'acquiert pas en lisant un livre. Là. C'est quelque chose qu'il va falloir apprendre et répéter et travailler en relation interpersonnelle.
Avec les expériences.
Ouais, fait que peut-être qu'on peut s'entraîner parfois avec des relations plus faciles que les relations amoureuses.
Avec des relations, peut-être, mais personnellement, moi, je suis passée d'un extrême à l'autre et je vois beaucoup de gens aussi qui ont travaillé sur eux. Puis je pense que la meilleure façon d'arriver à combattre tout ça, là, ben, c'est d'apprendre à être bien tout seul. Tu sais, à partir du moment où tu as appris à être bien seul, ben, l'autre va être un plus dans ta vie. Mais si tu le perds, ben écoute, ça va avoir été une expérience, mais je vais redevenir seule, mais je vais quand même être heureuse seule. Être heureux ou heureuse seule. Donc, moi, je ne veux plus jamais posséder quelqu'un. Je veux quelqu'un qui n'a pas besoin de moi, puis que lui n'a pas besoin de moi non plus. Tu sais, qu'on fasse un plus. Fait comme ça, s'il veut sortir un soir dans un bar, là, ben parfait, vas-y t'amuser. Puis reviens me raconter ta soirée. Puis s'il est pour se passer quelque chose... Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas avoir de contrôle là-dessus, tu sais. Donc, ça va lui appartenir. Puis, si c'est pas dans notre entente de couple, parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, les couples, il peut y avoir toutes sortes d'ententes.
Ouais.
Mais moi, on dirait que je vois ça comme, de toute façon, si c'est pour arriver, ça va arriver.
Mais je te relance la balle. Ceux qui sont déjà en couple, penses-tu que c'est possible d'apprendre à être bien seul, même si t'es en couple?
Ben, d'apprendre à avoir assez confiance en toi pour te dire « Je suis la meilleure personne pour mon conjoint ou ma conjointe. » Donc, il n'ira pas ailleurs. Tu sais, je veux dire, si tu es persuadé que tu es la meilleure personne pour lui, mais je sais pas, peut-être que je suis en champ, là, je sais pas, mais on dirait que...
Mais c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup des propos que tu mentionnes quand je viens à l'émission de radio. Là, moi, je trouve qu'ils témoignent du fait que toi, tu as vécu de l'abondance affective. Tu n'as pas été souvent tout seul.
Ben, ça fait 4 ans là, que j'ai eu quelques expériences, mais que je suis célibataire, mettons.
Mais quand une personne, mettons, a de l'insécurité, qu'elle n'est pas sûre qu'elle va pouvoir rencontrer à nouveau, qu'elle doute d'elle-même beaucoup, c'est dur de sécuriser une base à l'intérieur de cette personne-là.
Je comprends ce que tu veux dire.
OK, ben ma prochaine relation... Je vais la laisser aller comme elle veut, parce que je n'ai pas à la posséder.
Ouais.
Non, ils n'ont même pas stocké une espèce de noyau fondamental de confiance.
Oui, je comprends.
Fait que c'est quelque chose, normalement, qu'on va acquérir tôt dans la vie avec notre style d'attachement. Si on peut, on va aller vers un attachement sécure, si on est chanceux qu'on reçoit des bonnes conditions propices pour ça.
Ouais.
Mais si on est foncièrement insécure, qu'on a des blessures d'attachement, ça se peut que ce noyau-là fondamental de sécurité, on doive l'acquérir dans une relation de couple.
Fait que là, dès que tu as une personne qui s'intéresse à toi, tu as tellement peur de la perdre que...
Exact. Donc là, ça va prendre plus de preuves de confiance, d'être choisi par l'autre personne que ce qu'une autre personne plus sécure aurait demandé.
Ouais.
Mais une fois qu'elle a créé cette base-là, puis je crois qu'en effet, ça demande de passer par une période de savoir être seul.
Puis ça, faut, là, sérieusement, ouais. Docteur, parce que... Il y en a beaucoup de gens qui l'ont jamais vécu quand même, là, une période seule qui...
Moi, je trouve que c'est comme une traversée du désert.
Ouais.
C'est dur, une traversée du désert. Puis même si on a une bonne carte, même si on a un bon guide, qu'on a des bons chameaux, c'est difficile parce que les dunes, ça change de place. Puis là, il vente, puis il fait froid la nuit, puis il y a des scorpions, puis des brigands. Puis de... Donc, c'est une épreuve apprendre à être seul.
Puis ça se peut qu'à un moment, tu penses que tu es arrivé alors que c'est un mirage, puis
exact.
Tu vas avoir encore un bout de temps à faire.
Oui, il y a des gens qui revirent de bord. Hein.
Ouais, ça se peut que tu apprennes à être bien seul, puis que là, tu te dis « Ah, je vais être toute seule pour un bon bout encore », puis bang, l'amour arrive.
mais quand on parle de contrôle et de protéger l'autre, est-ce que le contrôle, parfois en relation, ça pourrait être une preuve d'amour?
Ça dépend si c'est dans un moment de désorganisation et de crise ou si c'est chronique. Parce que si c'est chronique, du contrôle chronique, là, je pense que c'est assez asymétrique. Là, c'est comme s'il y en a un qui s'installe dans le rôle de pouvoir puis l'autre qui suit.
Ouais.
Quoique ça donne des couples quand même assez viables selon les études. Mais si on est dans une situation de crise, je pense que parfois il peut y avoir des interventions de contrôle pour protéger la personne d'elle-même. T'sais, on a même une loi au Québec là, qui s'appelle la loi P38 qui permet d'hospitaliser une personne contre sa volonté si... Elle représente un danger pour elle-même et pour les autres. Puis là, cette hospitalisation-là, là, ce contrôle-là contre son consentement doit être temporaire et transitoire. Donc, c'est la même chose avec les mesures de contrôle dans une situation conjugale, je pense.
Mais il y a des gens qui sont hyper fusionnels aussi, où là, on pourrait presque croire que c'est une forme de contrôle des deux côtés, mais en même temps, c'est fait de façon consentante. Ils sont conscients de ça, ils sont bien là-dedans, ils se nourrissent et tout ça, donc... Ouais, OK. Puis, comment est-ce qu'on peut voir, disons, bon, quelqu'un partage justement là, son malaise là, à ce qu'un tel parte en voyage avec ses chums ou sorte un soir. Bon, comment est-ce qu'on peut arriver à bien partager notre... Comment est-ce qu'on devrait le partager, notre malaise?
Moi, je pense que ça devrait justement être un partage. Un partage, c'est donner à l'autre ce qu'il ne connaît pas.
Ne pas faire subir
Fait que j'y fais une espèce de dévoilement sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi que peut-être l'autre ne sait pas.
Ouais.
Fait que c'est un cadeau à quelque part. Ça l'enrichit la relation d'une nouvelle information. Parce que je te partage un secret, je suis plus à l'envers que ce que je pensais.
Ouais, mais c'est bon ça!
C'est tellement difficile à accomplir quand on prend en considération que le 3/4 du monde ont de la misère à parler de leurs émotions, puis souvent ça sort tout croche, puis on peut heurter là, la personne qu'on aime.
Effectivement.
Y a-tu des mots qu'on peut employer, des phrases qu'on peut dire qui peuvent nous aider à nous amener du point A au point B sans avoir peur de blesser la personne qu'on aime?
Ben, ça serait peut-être d'accepter d'avoir peur.
Ah, c'est bon ça.
Quand tu dis ne pas avoir peur, c'est déjà une manière d'être en résistance contre une émotion. Moi, j'aurais le goût de vous dire, si vous avez peur, parfait, c'est correct. C'est correct d'avoir peur parce que ça veut vous protéger. Le signal d'alerte de la peur, c'est comme s'il dit, si on zoome dedans, il dit, fais attention, c'est peut-être dangereux. Vérifie puis prépare-toi. Donc, OK, là, j'ai compris que j'ai peur. Ouais, j'ai plus peur que ce que je pensais. Donc, je voudrais vérifier quelque chose avec toi. Est-ce que tu j'ai à m'inquiéter parce que j'ai vu des signes peut-être de telle affaire? Je voudrais vérifier tel truc avec toi. Là, t'as-tu changé nos règles relationnelles ou bien là, c'est correct qu'on garde ce qu'on avait convenu? Il y a des gens qui vont changer les règles en cours de route et qui ne vont pas informer leur partenaire. Donc, quand on vérifie ça, c'est-tu du contrôle ou de la protection? Il y a des personnes qui vont dire que c'est du contrôle. Moi, je pense que c'est de la protection. Quand on se connecte avec la réalité, qu'on partage, on enrichit le lien. Mais si vous jouez sur le territoire de l'autre personne en premier, là, tu feras pas telle affaire. Je t'interdis de tel truc. Ça, c'est du contrôle. Puis c'est qu'on n'est pas en train d'agir sur soi. C'est la première règle du secouriste d'urgence, c'est ne pas se mettre dans le trouble en voulant aider quelqu'un. Donc, peut-être que ça serait bien d'agir sur soi aussi sur le plan affectif quand on veut bien aimer quelqu'un. Garder un œil sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est tellement facile de donner notre hyper-vigilance à ce qui se passe autour. Là. Puis là,
mais
d'être omnubilé par l'autre.
Oui. Puis il y a quelqu'un qui mentionne, c'est pas les sorties dans les bars le problème, c'est plutôt les voyages dans le sud en gang de filles ou en solo. Oui et non.
C'est pas plus un
parce
problème?
Que, ben non, parce que dans le fond, en réalité, là, puis même si votre conjointe est sollicité par des gens, ce qui est important, c'est sa réaction face à cette sollicitation-là.
Exact.
Parce qu'on peut pas contrôler l'extérieur. T'sais.
Non, effectivement.
Fait qu'il faut pas péter une coche à votre conjointe parce qu'elle reçoit un message ou une déclaration d'amour, c'est pas de sa faute, tu sais, à moins qu'elle
le provoque.
Provoque, exactement.
Ouais,
même chose pour les voyages en sud, tu sais, partir en voyage solo. Moi, je vois aucun problème là, si c'est fait de façon honnête.
Ça va voir, on va dépendre, c'est où que la personne est rendue dans son développement affectif. Moi, j'ai déjà été un homme très jaloux. Alors, dites-le pas aux auditeurs. Là, genre,
mais... En nous autres.
En 2009, j'ai traité ça en thérapie la première fois.
OK.
Puis aujourd'hui...
C'est que tu manquais de confiance en toi?
Pour plusieurs raisons.
OK.
J'avais pas de compétences de gestion des émotions. Puis là, il a fallu
mais ça, là, c'est quelque chose qu'on devrait enseigner à la fin du secondaire, non?
Non.
Non?
Mais je pense que ça vient avec les expériences, moi, puis les erreurs, les embûches, le fait de se relever, d'apprendre.
Je pense moi, je trouve qu'on devrait avoir des cours d'empathie, de gestion des émotions.
Tu dis ça juste parce que toi, tu trouves ça important dans ta vie adulte.
Mais ben,
les gens qui donnent des podcasts
en Suède,
sur la finance...
En Suède, il y en a, là, en Norvège, je pense... Comment? Ouais,
mais quelqu'un qui aurait un podcast sur la finance, il dirait... Il faudrait enseigner la finance aux écoles secondaires.
Mais ben
il y a pas de c'est beaucoup surchargé les écoles, ça, de penser que ça devrait être enseigné dans les écoles. Je pense que c'est une question de vie privée, ça, la gestion des émotions.
Je trouve que les outils auxquels j'ai eu accès, j'ai eu accès tard dans ma vie. C'est sûr qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, puis
on n'utilise pas tous les outils de la même façon. Là. Il y en a qui vont construire une maison avec un marteau, puis il y en a d'autres qui vont prendre un tournevis. Tu comprends? Ils vont arriver au même résultat, mais ils ont des outils différents.
Oui, mais tu sais, comme les blessures de l'âme, les langages amoureux, tout ça, là, les blessures d'enfance, tabarouette, que c'est intéressant.
Il y a beaucoup de travail à faire, ben oui.
C'est intéressant, puis une fois qu'on les connaît, nos blessures, et qu'on connaît ceux de la personne qui nous intéresse ou la personne avec qui on partage notre vie, on a un grand pas de
mais
fil.
Mais pourrais-tu te confier en toute intimité, c'est
vas-y
quoi
donc.
Qui, moi, me libérait de la jalousie?
On veut savoir.
C'est quand je me suis dit... Je ne veux pas vivre dans un enfer intérieur toute ma vie. Puis là, je me suis libéré moi-même en me disant, je n'ai pas le contrôle sur les comportements de l'autre. Fait que si l'autre, ça l'intéresse de me trahir, d'être infidèle, de faire des affaires, ça ne me regarde même pas.
Exact.
Moi, là, je vais rester à partir de maintenant le responsable de la suite de ma vie. C'est sûr que j'aimerais pas ça si ça l'arrivait, là, puis je me faisais trahir à nouveau. Mais ça reste que maintenant, c'est moi mon centre. Moi, je ne m'abandonne plus.
Puis dans le moment présent, tu n'as pas de contrôle là-dessus, comme tu dis.
Exact.
Donc, c'est de briser plein de moments présents pour quelque chose qui n'arrivera peut-être même pas.
Ça t'a permis de vaincre ton anxiété aussi, j'imagine.
Bien, j'aime
parce
pas
que
la nomenclature
de
vaincre. Parce que vaincre, ça voudrait dire, encore une fois, qu'on le combat, qu'on est en opposition contre.
De la gérer, donc.
Oui. Fait que moi, j'aurais goût de dire, j'accueille mon anxiété quand elle est là.
Oui, parce que j'avais déjà entendu une phrase de Mark Twain qui disait que l'anxiété, c'était comme payer une dette à quelqu'un à qui on n'avait pas de dette.
Ah oui.
Wow.
Puis je trouvais que ça voulait tout dire. On se fait des fabulations sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. Alors apprendre à les gérer, c'est primordial.
Oui, oui, oui. C'est la dette envers l'arc-en-ciel gris.
Moi, je poursuivrai cette discussion des heures et des heures, mais comme vous le savez, on a des commanditaires qui nous permettent de rendre... De rendre en vie ce show-là. Donc, on va tout de suite aller à la pause et on vous revient.
La sexploratrice.
Exploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.
Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X. Ça réagit en fou sur le live TikTok, mais également sur le live en ondes, finalement, au 418-670-9098. C'est ici qu'on lit les commentaires. Max, exceptionnellement, tu as accès à quelques commentaires sur TikTok.
Oui,
TikTok,
absolument.
En fait, parce qu'il y a quand même des questions très intéressantes.
Il y en a des très bonnes. On vous invite à venir commenter si vous avez envie de le faire. Cube Radio a parti son segment télé aujourd'hui. Ben nous, on est sur TikTok. Alors, vous pouvez venir voir Mel et le docteur en toute impunité. Une bonne question d'Alicia qui nous demande « Doc, je fais quoi si mon ex-partenaire... » m'accuse d'adultère alors que c'est jamais arrivé.
Ton ex-partenaire?
Oui.
Mais là, on s'en fout, rupture.
Non, non, non. Des fois, c'est après la relation qu'on va comprendre c'est quoi qui s'est passé.
Absolument.
Jusque où on a accepté des choses. Parce que s'il y a une accusation qui persiste, mais que ça ne s'est pas passé...
Non, mais là, je veux dire, ils ne sont plus ensemble, puis lui, il persiste. Est-ce qu'elle pourrait juste dire, « Hey, garde! »
Des fois, c'est possible, mais des fois, c'est l'ex, mais il y a des enfants qui maintiennent
le lien. Ah, je comprends, ben oui. OK. Là, ils sont toujours en lien, disons.
Ouais.
Comment on gère ça?
Fait qu'il y aura... parce que cet ex-là, c'est pas à vous de le rassurer, on pourrait dire, maintenant qu'il y a une séparation.
OK, disons, je suis en couple et mon partenaire m'accuse, ou t'es en... Max, t'es en couple, ta blonde t'accuse constamment que tu la trompes tout le temps. Elle doute tout le temps de tout. Comment gérer ça? Comment Max devrait prendre ça?
Oh. Le conseil général, ça serait...
Trompe-la, puis ça va être réglé.
Non, hey, maudit!
C'est pas vrai!
Je vais demander à être remboursé pour mon cachet de ce soir.
C'est complètement faux! Ne faites pas ça, mesdames et messieurs!
Mais non. Mais l'insécurité peut prendre différents chemins, puis là, ça va dépendre. Si vous avez la patience d'intervenir auprès de votre ex-conjoint, ça
peut être tellement
lourd. Mais si vous ne l'avez pas, cette ressource-là, que vous êtes à bout ou que vous savez que ça ne donnera rien de toute façon... Ben, des fois, il faut savoir se désengager sans demander la permission à l'autre.
Oui, mais si c'est ton ex, laisse-le buzzer tout seul, puis il va finir par faire son chemin.
Ah,
mais
là... vous êtes rude, vous autres, à soir.
Mais là...
Ben, on est rude. On est rude dans le sens où la relation est terminée. Si lui, il s'est fait des préconceptions sur quelque chose qui peut arriver, c'est à lui de gérer ça.
Non, mais c'est complexe, l'équilibre conjugal. Ça repose des fois sur toutes sortes de piliers émotionnels, familiales, financiers. Puis il y a des gens qui n'osent pas remettre en place une nouvelle limite parce que, il y a une conséquence sur le plan familial pour Noël prochain. Puis... Fait que c'est délicat.
C'est pas faux.
Moi, j'ai vécu quelque chose. J'avais des doutes sur une personne de mon ex, ça. Puis aujourd'hui, ben, ils sont en couple. Puis, plutôt que d'être jalouse, je me dis, ben, garde. Il y avait une connexion. Je le savais, là. Je savais qu'il y avait une connexion. J'avais des doutes. Je sais pas si... Je suis pas sûre qu'il m'ait trompé durant, mais clairement, il y avait une connexion entre les deux, donc ils ont connecté après, là, tu sais. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble, puis je me dis, bon, ben regarde, ils étaient vraiment destinés, puis je suis capable d'avoir de la compassion pour eux, puis de dire... Continuez votre chemin, puis moi, je vais continuer mon chemin.
Oui, puis on a un complémentaire d'information d'Alicia qui nous dit maintenant qu'elle a eu le cœur brisé parce qu'il l'a laissé à cause de ça. Donc là, ça change la donne.
En plus, ça a brisé la relation.
Donc, probablement qu'Alicia a encore des sentiments pour cette personne-là aujourd'hui, alors que lui, il vit dans des fabulations, puis il a causé la séparation de la relation à cause de des idées préconçues comme ça. Alors, Doc, dans ce cas-là, on fait quoi?
Moi, jamais je pourrais poser un diagnostic auprès d'une personne sans avoir fait l'évaluation approfondie. Là, fait que c'est pour ça que là, je fais des conseils généraux.
Hey, c'est triste.
Mais parfois, j'ai déjà vu...
Des délires paranoïques.
Des délires paranoïaques apparaître. Ouais. Là. À toutes les fois que j'ai remis le diagnostic psychologique à un patient là, qui souffrait d'un trouble de personnalité paranoïaque, ça n'a jamais été accepté de manière positive. Est-ce que c'est justement dans la nature du trouble de ne pas être dans le lien de confiance? Il y a des liens de confiance qui peuvent être extrêmement abusifs et qui vont aller très loin et qui ne sont jamais rassurables. C'est pour ça que les délais, les pertes de contact avec la réalité, ça demande tout qu'un doigté professionnel à évaluer. Hein. Mais c'est pas à un conjoint-conjointe de savoir gérer ce genre de niveau-là d'information.
Ah, ça doit être extrêmement difficile.
Et là, je dis pas que c'est le cas dans l'histoire que la personne nous raconte, mais quand il y a une persistance de la croyance, malgré que c'est jamais arrivé, puis il y a eu séparation en plus, ben il y a peut-être juste à tirer une leçon de la relation, dire bon... Quand je vais voir apparaître chez un futur partenaire peut-être l'insécurité là-dessus, je vais peut-être pas attendre que ça soit autant magané avant de moi-même poser ma limite.
Mais c'est un peu grâce à nos relations précédentes qu'on évolue puis qu'on réussit à déterminer des limites puis à voir venir à l'avance les coups et les red flags, tu sais. Donc, voyez-le au moins comme ça, là, ce serait le point positif.
C'est ça l'important.
Il y a toujours du positif dans tout.
Oui, oui.
Non, pas tout le temps. Mais ça, c'est parce que sinon, ça serait une vision un peu la positivité toxique, ça. De penser qu'il y a toujours du positif.
La positivité toxique.
Tu connais pas ce concept-là?
Non, c'est la première fois que j'entends ça.
Ben moi, ça fait plusieurs fois que Paul Simon m'en parle. Ça me bosse un peu. J'essaie de trouver un positif là-dedans.
Ben, je suis tanné!
Je suis plus capable!
C'est une positivité qui n'est pas lucide.
Pourquoi?
Ben mettons, tu sais l'affaire du gouvernement là, dans le temps de la COVID, là, qui disait...
Ça va bien aller.
Ça va bien aller. Ça, c'est une... fiction positive.
Ben moi, j'ai réussi à trouver du positif là-dedans.
Ah, ouais, le gouvernement nous fait des fictions positives.
Mais c'est parce que la réalité, c'est ça va aller. Dans le sens où tout change dans la vie. Mais ça va bien aller, c'est une attribution positive qu'on ne sait pas pantoute si ça va bien aller. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va... Donc, il disait ça pour nous rassurer. Donc, C'était une fiction.
Ça change pas partout tout ce qu'on s'en
est. C'est pas plutôt une façon de nous conditionner. C'est-à-dire que si on se conditionne à penser que ça va bien aller, ça va bien aller.
Mais ça, c'est comme les croyances. Ça sert à rassurer les gens.
Ah, oh, c'est beau parce que là, on s'en va justement vers mon deuxième sujet.
Oh! C'est quoi ton deuxième sujet?
C'est ça, les croyances.
Ah non!
Mais oui! Je veux qu'on parle de croyances, d'astrologie, de pourquoi ça nous fait du bien de croire en quelque chose, de croire en... la force de l'univers, la loi d'attraction, les prières.
Ouais.
Tu sais, souvent, les gens, là, quand ils arrivent près de la mort, là, ils se mettent à croire en Dieu à côté. Là.
Quand ils sont stressés également.
Stressés, quand on vit le décès, la perte de quelqu'un.
Un non-sens, un choc.
On a tendance à vouloir se tourner vers quelque chose de plus grand que nous qui pourrait nous faire du bien.
Oui.
Et je le sais qu'on s'est déjà obstiné à maintes reprises concernant la loi d'attraction parce que personnellement, ça me fait beaucoup de bien.
Oui, ça, c'est vrai. Ça te fait du bien. Ça ne veut pas dire que c'est vrai le contenu de la loi d'attraction, mais c'est vrai que ça fait du bien.
Oui, exactement. Et moi, si ça m'amène à un effet placebo qui fait en sorte que je reste alerte aux opportunités qui me mènent tranquillement vers mon but...
Ça, c'est super.
Ou vers... C'est beau, hein? C'est toi qui m'avais enseigné ça. Puis... Puis que finalement, ça arrive.
Ouais.
Wow.
Mais c'est pas ça le pari de Pascal? Qui dit que même si on croit à une chose, on est aussi bien de le croire parce que si en définition, ça n'arrive pas, ben au moins, on n'aura rien perdu.
Oui, mais il a fait beaucoup de théories, lui, d'ailleurs. On pourrait l'examiner pendant quelques heures.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui remettent ça en question. Hein.
Disons que c'est... Prenons l'exemple de l'astrologie. Là. Il y a des gens qui croient à l'astrologie puis que ça... Ils observent dans la réalité une vraie manifestation là, t'sais, en lien avec un astre. Mais c'est peut-être pas la bonne explication. C'est parce que l'astrologie... On sait c'est quoi l'astre qui a le plus d'influence sur nous. Veux-tu te dire c'est quoi?
Vas-y!
Le soleil.
Ah!
Parce que le moment où vous êtes né dans l'année, ça va prédisposer peut-être le genre d'alimentation que votre mère a eu pris. Ça va prédisposer aussi votre degré d'exposition aux contaminants, aux infections, aux trucs. Donc, c'est vrai que la saison à laquelle vous êtes né dans le moment de l'année, le lieu de l'année, ça a une influence sur vous. Mais ça n'a peut-être pas
c'est
rapport avec les constellations.
Plus que
là,
la
t'sais.
Constellation. Mais il y a aussi l'effet Barnum.
Oui.
J'aimerais que tu l'expliques aux gens parce qu'on dit que ça prend au moins 75 % de prédictions floues positives pour que tout le monde y croit.
Oui, bien l'effet Barnum, c'est un psy qui a étudié l'influençabilité, on pourrait dire, des gens face à des discours très flous. Puis pour faire une histoire courte, il y a un professeur de cégep qui a demandé à ses étudiants leur date de naissance. Puis il a dit, je vais vous sortir votre signe astral là, parfait pour tout le monde. Fait que tous les étudiants donnent leur date de naissance, puis les moments, puis tout ça. Puis là, il sort pendant la semaine, pour remettre la semaine suivante, un signe astral détaillé auprès de chaque étudiant. Puis là, il donne une copie à chaque, puis il dit, lisez-le et tournez la feuille sur votre bureau. Attendez que tout le monde ait lu, je vais vous poser des questions. Puis là, tout le monde lit leur feuille, il tourne la page, puis là, il dit, levez la main ceux ici dans la salle qui trouvent que le signe astral que je vous ai produit avec votre date de naissance vous ressemble. Puis là, il y a quasiment tout le monde de la classe qui lève la main. Puis là, il dit, d'accord, maintenant, échangez sur le contenu de votre lettre. Puis c'était toute la même lettre. Fait que c'est que tant que c'est suffisamment flou, général, comme par exemple, Mélanie, vous êtes une personne sensible qui attendait de la vie des opportunités manifestes, mais qui parfois doute de certaines de ces opportunités en se disant qu'il est possible que d'autres personnes puissent en bénéficier. Donc, là, suffisamment que ce soit flou, gentil, positif, vague. Puis là, la majorité des gens vont embarquer là-dedans. Puis là, ça a été étudié. Ça prend au moins 75 % de descriptions positives pour que les gens y adhèrent à peu près à n'importe quoi.
Puis si on parle de l'astrologie, disons.
Oui.
Là, dans le fond, les signes zodiaques et tout ça, ben moi, mettons que je suis Gémeaux, là. Mettons.
Ah bon?
Ben on dirait que ça fit vraiment dans la description du Gémeaux, mon type de personnalité.
Mais ça fait depuis que tu es enfant que tu te fais dire que les Gémeaux, ils appartiennent à tel genre de catégorie. Mais si tu regardes c'est quoi les définitions à différents moments donnés de l'année, tu vas voir que ça se recroise tout pas mal, parce que c'est des définitions floues, vagues.
Pis... Ouais, mais c'est incroyable dans l'astrologie quand même, quand on pense que ça remonte à quoi? 2 millénaires probablement avant Jésus-Christ.
Oui, c'est ça.
Oui, toi, t'as étudié en
astrologie.
C'est les Sumériens qui ont
étudié en histoire, mais t'es passionné d'histoire, en
fait. Oui, c'est ça, exact. Je passe mes fins de semaine dans le coin horoscope journal. Là, fait que je connais bien des affaires.
Mais fais-moi donc un petit topo.
Ça vient de la Mésopotamie. Ouais. Ensuite de ça, ça a migré vers la Rome antique. Et, la Chine, les Hindous, les Mayas l'utilisaient. Par la suite, la Rome a transféré ça en Europe occidentale. Et c'est les concepts qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de scientifiques qui pensent que l'astrologie, c'est une pseudo-science, puis c'est digne du charlatanisme. Toi, est-ce que tu es d'accord avec ça, ou tu penses qu'il y a vraiment des fondements qui sont vrais dans ce qu'on peut lire?
Ça fait longtemps que ça a été évacué du champ du doute de la science. Avec les méthodes. Il y a encore quelques chercheurs qui, de temps en temps, vont publier des études, genre, pour le fun, pour démontrer à quel point ça ne marche pas puis que ce n'est pas valide. Mais on ne peut même plus dire que c'est une pseudo-science aujourd'hui, là, parce que ça a été très bien invalidé, les protocoles de ça.
Ah, tout à fait.
Puis une des choses, si vous voulez, si vous avez un doute, là, que vous pensez que c'est vrai, là, bon, ben, mettez deux astrologues ensemble, là, ils vont s'ostiner ensemble, ils ne seront pas d'accord sur les interprétations des cartes. Fait que c'est juste les thèmes astrales. Tu mets deux astrologues ensemble, ils vont les interpréter différemment. Mais ça donne une impression de scientificité parce que, hey, il y a des courbes, il y a des angles, il y a des regroupements, il y a comme des maisons conceptuelles. Puis là, oh, c'est compliqué. Mais en réalité, ça a méga été étudié, puis les prédictions, ça ne tient pas la route.
Fait que ça vient rejoindre quoi? Juste notre désir de croire, désir d'espoir, notre désir de s'identifier?
C'est le besoin de faire du sens. C'est que...
Trouver la raison.
Ouais, selon les recherches anthropologiques, quand ça a été inventé, là... L'horoscope, ben pas l'horoscope, mais l'astrologie. C'est qu'ils regardaient dans le ciel, puis ils voulaient faire des prédictions pour aider les rois, aider les hauts prêtres, puis tout ça. Puis ils essayaient de prévoir. OK, j'observe qu'à tel moment donné de l'année, il y a telle étoile à tel moment donné qui passe. Puis là, ils disent, OK, peut-être que ça serait relié avec telle chose qu'on vit dans notre vie de tous les jours. Puis là, ils faisaient de l'agglomération avec d'autres concepts ésotériques ou spirituels. Il y en a qui se sont tournés vers les étoiles. Il y en a qui se sont tournés vers lire dans les entrailles des animaux. Puis aujourd'hui, il y en a qui se sont tournés vers le cul.
Vers la repologie!
La repologie, oui,
repologie. Ouais. On va terminer avec ça. On avait un autre sujet qu'on va garder pour la prochaine fois. On va parler des gens qui sont un peu caméléons, OK?
OK.
J'aimerais beaucoup qu'on garde un épisode là-dessus. Mais là, on va parler de repologie.
Ouais, c'est quoi?
La repologie, mesdames et messieurs, c'est... J'ai perdu mon... Le repologie, c'est vraiment une pseudo-science qui s'apparente à la physionomie, finalement. Bref, c'est de lire l'avenir sur les fesses de quelqu'un.
Ouais.
Mais c'est une véritable
espèce d'art
science.
Divinatoire tourné vers le cul dans lequel ils vont faire des prédictions en lien avec la forme des fesses puis le sillon interfessier.
Oui, donc ça peut être effectué
sérieux,
par la vue.
Il y a des gens qui y croient pour de vrai.
Oui, on a tout.
Ah oui, ça peut être effectué par la vue, par le toucher ou encore en utilisant des empreintes des fesses.
Voilà.
Donc, en plus des analyses en direct, il y a une... c'est Jackie Stallone qui est une... une scientifique, en tout cas, bref, qui effectue des analyses des fesses en utilisant des photographies numériques envoyées par email.
Okay.
Elle a prétendu prédire le résultat des élections présidentielles et des Oscars en lisant les fesses de ses deux chiens, Doberman.
De ses deux chiens?
C'est n'importe quoi.
Fait que j'imagine
pourquoi c'est n'importe quoi alors que la loi d'attraction, ça marche? Hein? Là, t'as fait un billet de sélection. T'as fait du cherry picking. T'as pris bon. dans le panier de fraises ou de
c'est
celle qui faisait ton affaire.
Non, mais c'est n'importe quoi. Mettons quelqu'un qui a des fausses fesses, ça fausse les résultats. Là. Puis j'imagine qu'on va pas dans le milieu des fesses parce que ta vie, c'est de la merde, c'est un moyen.
Mais là, tu peux pas lire à l'intérieur d'une main si elle est blessée non plus. Mais les lignes de la main, même chose. C'est la même chose.
Mais tu crois-tu à ça, Mel?
Pardon?
La rhumatologie?
Mais non, pas tout. Mais là, ben non.
J'ai eu peur, là.
Mais l'astrologie non plus, ça me fait... comment dire? Je trouve ça comme je me tire aux cartes, moi. J'adore me tirer aux cartes. Parce que...
Paul Iri.
Ben, excusez, là, mais Paul aussi. Tire aux cartes. Tu tires aux cartes,
mais moi, c'est pour faire drôle que je fais ça.
Ben, moi, je le fais pour me divertir.
Moi, c'est... j'ai utilisé...
Je le prends pas, genre... OK, il est sorti ça. Il va arriver ça.
Ouais.
Tu comprends? C'est plus... Je le prends pour me divertir, puis après, je constate si oui ou non, c'est arrivé. C'est pour...
Moi, je l'ai utilisé dernièrement dans le cadre de la séduction, les cartes. Hein, c'est pour faire de la discussion animée, dans le fond, avec ma partenaire, dans laquelle, par hasard, pige une carte, et moi, je pige une carte. Ça nous donne du sujet à discussion, puis à rire ensemble.
C'est du divertissement.
Parce que moi, j'aime composer des histoires. Fait que ça aurait été n'importe quelle carte. J'aurais sorti une histoire pareille, le fun, pour créer de la complicité.
Oui.
Fait que moi, j'en ai un, jeu de cartes à la maison.
Tarot.
Que...
Mais tu vas pas tirer un matin au tarot.
C'est ça, parce que moi, j'adore tout ce qui touche aux croyances de l'être humain. Fait que j'ai étudié tous les livres religieux de toutes les religions. Là, je dis tout, je doute bien d'en avoir échappé deux, trois, là, mais pas mal. Tous les grands courants religieux, mystiques, ésotériques, les croyances, je les étudie à fond parce que pour pouvoir accompagner une personne qui est prise dans une souffrance là-dedans, il faut connaître ça.
Ouais.
Et moi, je le prends comme de la poésie. Ouais. Okay. De la bonne poésie, ce n'est pas de la mauvaise science.
Non.
Pas de la
science par doute. Tu es un manipulateur, tu apprends à faire du tarot pour séduire les femmes.
Ben non, c'est ça. Mais de la poésie, tu sais, maîtriser le langage, maîtriser la scénarisation, c'est une compétence à quelque part.
Oui, exactement.
Totalement.
Mais tu sais, prenez ça par plaisir, là, votre horoscope dans le journal ou dans le au quotidien.
Non, non, lisez pas ça, lisez pas ça.
Non, moi, je trouve ça drôle.
Oui, mais OK, si on va plus loin que ça, là, si je te parle de voyance...
Ah, oui. Hey.
Parce qu'on est dans à peu près dans le même champ, là, la voyance, l'astrologie, ouais, les ça, cartes, là, le tarot.
Ça, la voyance, on a déjà reçu, il me semble que c'est dans le Space Cast que j'avais fait venir ma voyante, là, Monique, qui m'avait été référée à l'époque par Benoît Gagnon, que vous connaissez là, sûrement là, de la télé, là, il était en tout cas, bref, il animait...
Oui, salut, bonjour.
Oui, c'est ça, exactement. Puis lui m'avait parlé, m'a dit, cette femme-là, là, on ne sait pas comment elle fait, mais moi et ma conjointe, on l'a consultée. Écoute, elle parlait avec des gens défunts, tu sais, puis ils la connaissaient pas. Bref, je l'ai consultée, puis plusieurs personnes autour de moi l'ont consultée. Elle nous a sorti des trucs qu'elle ne pouvait pas savoir sur mon fils, une personne que je fréquentais à ce moment-là. Elle m'a sorti le nom, là. Il n'y a personne qui savait ça, excepté ma famille proche. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait... elle m'a même parlé du décès de quelqu'un, puis c'est arrivé. Là, je suis comme, OK, à quel point cette femme-là a vraiment un don? Monique Lambert a participé d'ailleurs à des émissions là, avec Marc-Claude Savard et tout ça. Là. Sébastien Trudel, je pense que c'est Marc-Claude Savard, qui faisait une émission là, sur...
sur les morts. Là.
Les morts et
les
tout.
Les meurtres.
Donc, tu sais, elle a quand même résolu ou aidé à résoudre des énigmes, des trucs comme ça. Donc, c'est fascinant, je trouve. Toi, ouais. Paul, qu'est-ce que tu penses des voyants?
Moi, je pense que les gens sont facilement impressionnés. Et cette impression-là là, de « wow! » Il y a quelqu'un qui sait plus que moi. Il connaît des codes secrets de la vie. T'sais, ça fait en sorte qu'on entre dans un état de suggestibilité là, tellement grande que l'être humain il est bâti pour se faire manipuler.
Mais comment quelqu'un peut parler d'un décès ou dire qu'elle voit quelque chose popper? Je le vois, là, je cherche son nom.
Ouais.
Puis là, elle sort le nom, je
fais... Ouais, mais juste de
comment
trouver...
Comment tu peux savoir ça? Mais
juste de trouver le nom de la personne avec qui tu étais à ce moment-là,
mais non,
personne
ne
le savait. Ça, c'est...
Ça, mais ça, c'est après coup, on recompose l'histoire de manière très cohérente. Mais en réalité, là, ça a été étudié ça aussi, là. Les gens, ils vont pas être... Si on avait l'enregistrement exact là, de ce qui s'est dit, probablement que tu n'as pas gardé le même souvenir après coup. Parce que ce qui t'a marqué, puis ce qui a créé l'émotion forte...
Ah non, mais je l'ai l'enregistrement.
OK, mais peut-être que t'as sélectionné des inputs. C'est un des biais fréquemment observés. C'est de la surestimation de certains segments qui font du sens pour soi. Mm-hmm. Puis là, on évacue tous les autres arguments où on a
mais
dit...
Mais c'est vrai qu'elle a dit des choses qui ne sont jamais arrivées aussi.
Mais
c'est ça. Ben
mais là,
voilà,
Paul,
c'est exactement
c'est
ça.
C'est pas tout ce qu'elle a dit qui est arrivé,
ouais.
Effectivement.
Ouais. Mais là, t'es dans la théorie, puis t'essaies de segmenter ça, là, puis de l'expliquer. Mais est-ce que tu crois à ça, toi? Est-ce que tu penses que des gens qui ont cette faculté-là de pouvoir deviner des choses, de parler avec les morts, de voir dans le futur?
Non.
Pour quelle raison?
Non, parce que j'ai aucune raison qui me permet de dire que ça existe ou que ça n'existe pas. Fait que dans le fond, moi, dans ce cas-là, je suspends mon opinion sur le sujet. Fait que je veux pas. C'est un peu la différence entre l'athéisme et l'agnostisme. C'est, l'athée dit Dieu n'existe pas. Mais c'est une position de croyance quand même. Je crois que Dieu n'existe pas. C'est, alors que l'agnostique, s'il dit moi, je le sais pas. J'ai aucune raison qui me ferait que je pourrais dire que c'est intéressant, ni aucune raison qui ferait dire que ce serait pas intéressant. Je n'ai pas à adhérer à ce système-là. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui y adhèrent, par contre. Mais moi, ça crée aucunement de la confusion ni du désir de savoir. Quand quelqu'un me dit « Hey, j'ai consulté une voyante puis si je parlais de tout, ça ne m'intéresse pas plus. »
On a bien rigolé avec Monique qui disait qu'on allait faire une conférence puis qu'on a fait une conférence.
Oui, mais on a travaillé fort pour la faire, la conférence aussi.
Mais c'est quand même arrivé! On a rigolé, on a ri avec ça. Bref, Monique Lambert, les gens me le demandent sur le live, quel est son nom. Donc,
on salue Maurique.
Il est tard. Monique
Ascendant viking.
Lambert. Voyante sur le web. Donc, Dr Simard, on a dépassé déjà le temps, c'est la fin. Et on n'a pas abordé tous les sujets qu'on voulait aborder. Encore une fois, c'est l'histoire...
Donc là, on sait maintenant qu'il faut se garder juste deux sujets quand on...
Oui, parce que plus que ça, anyway, on les fait pas. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été en si grand nombre présents sur le live. On n'a même pas eu le temps de tous vous lire sur le TikTok. Même chose, merci beaucoup d'avoir été là en tant que spectateur. Merci, Max, mon
cher
acolyte.
Merci à toi.
Merci beaucoup, Dr Paul Simard, psychologue. On se revoit, j'imagine bien la semaine prochaine.
Oui, je vais aller rejoindre, je vais aller répondre aux courriels des gens, là, parce que les gens m'ont demandé si j'avais encore de la place cette semaine.
Ah,
la réponse est oui.
Ah,
donc,
oui.
Je vais répondre à tous vos messages.
Comment on vous contacte, Dr Simard, psychologue?
Juste à regarder sur le web, le Dr Paul Simard, psychologue. Toutes mes coordonnées sont là. Contactez-moi en privé, je vous envoie tous les détails.
Abonnez-vous à sa page TikTok également. TikTok, Instagram, Facebook.
Oui, puis pour ceux qui ne le sauraient pas, tes bureaux sont à Québec, toi, Paul.
Yes.
C'est exact?
Oui.
All right.
Yeah.
Cool.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une magnifique fin de soirée. Vous étiez à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.